Maintenant, dans cette deuxième partie de cette rencontre du début du mois de juin 1982, j'ai une question de 100 000 $ à poser à Bernard. On appelle ça comme ça parce que ça veut dire que ça implique beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. L'être humain qui a évolué sur la Terre depuis des milliers d'années est arrivé à un moment donné où il atteint une certaine forme de maturité, soit biologique et par conséquent spirituelle ou mentale, où on se rend compte qu'il atteindra un nouveau dispositif mental qui lui permettra soit de faire de la télépathie, de la télékinésie, du dédoublement contrôlé dans l'astral, d'échanger même ce qu'on appellerait de l'empathie, c'est-à-dire des états émotionnels qui appartiennent à un autre pour pouvoir mieux le guérir ou pour pouvoir mieux le comprendre. Mais c'est à ce moment-là que depuis des milliers d'années aussi, des êtres sur le plan mental qui lui envoyaient par l'énergie intelligence, en sachant ses faiblesses émotionnelles et son ego qui transforme toujours les choses, lui envoyait certaines pensées que lui pensait être à lui personnel. Tout ça, on en a un petit peu puis pas mal parlé dans la première partie de la soirée. Toujours est-il que ces êtres qui sont sur le point d'atteindre la forme de maturité mentale deviennent très intéressants pour ces intelligences et ces manipulateurs de pensées, qu'il faut absolument qu'ils ne perdent pas la mainmise sur l'homme. Et pour ne pas perdre la mainmise sur l'homme, au moment où la transformation humaine l'amènera sur un nouvel horizon mental, c'est de lui faire oublier tout ce qu'il pourrait découvrir rapidement pour qu'il ne se centre que sur une chose, pour qu'après on puisse continuer à jouer avec lui. Il devient capable de semer. Il devient capable de l'orgasme sexuel. Il devient capable d'un orgasme supramental. On va lui dire qu'il doit servir de cette énergie-là que de telle façon, sachant qu'évidemment, on le prive de tout le reste qui lui aurait donné toute liberté. Et alors, un porte-parole sert à ses intelligences pour mystifier par le verbe, stigmatiser par le personnage, donc le vécu semblable entre tous les hommes, les masses, de façon à ce que ils répondent essentiellement à cette volonté de ces intelligences de maintenir la mainmise sur l'évolution de l'homme. Et ma question de 100 000 $, Bernard de Montréal, encore une fois, pourquoi êtes-vous quasi incapable de nous parler du rôle de l'homme, de lui vers, et toujours nous parler de cette intelligence, de cet extérieur, que l'homme, à cause de tous ces champs d'énergie émotif, le pire esprit, l'ego, tout est dans le problème, ben c'est dans l'homme. Puis tout va arriver d'en haut, quand ce sera le temps, comme ce sera le temps, mais comme si dans l'homme il n'y avait pas d'énergie. Alors qu'il y a d'autres maîtres qui, eux, travaillent sur l'autre côté. Mais ces maîtres-là, lorsqu'ils parlent des petits oiseaux, là, comme tu disais, c'était comme amusant, intéressant. Mais je vous prie de me croire que Saint-Ignace de Loyola, pour lui, ça n'a pas été amusant et intéressant, sa vie, des petits oiseaux. Et puis que Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, ça n'a pas été intéressant, les petits oiseaux. Puis j'irais même plus simplement que ça, avec un Yuri Geller ou un Jean-Pierre Girard qui tordent des barres d'acier ionisé. Parce que, eux, en dedans d'eux, ils agissent sur l'extérieur, sur l'environnement. Ils transforment l'état interne de la matière. Non pas par l'intelligence, mais par l'énergie qui vient du cœur et qui est subjective et qui est une énergie polarisante. Parce que Bernard nous parle toujours de ce qui rentre dans l'homme, mais il ne nous parle jamais de ce qui va sortir à l'autre bout. Et ce qui sort à l'eau d'où, c'est ce que l'homme en fait de cette intelligence. C'est bien beau de nous dire qu'est-ce qui va arriver, mais qu'est-ce qui en fait? C'était tout mon exposé de 100 000 $.
Bon. Il faut séparer l'évolution de l'homme en deux parties. Il y a une évolution chez l'homme qui sert ou qui a servi à la formation de l'ego, qui exprime une subjectivité chez l'homme, avec tout son matériel mental, émotionnel. Bon. Il y a une autre partie de l'évolution qu'on appelle l'évolution propre, où il doit y avoir fusion entre l'homme et l'universel. Unification, unité. Alors, dualité dans l'unité, unité dans la dualité. Ce que l'homme, au cours de l'évolution, n'a pas réalisé, et qui a créé sa subjectivité, c'est que, de toujours, l'énergie contrôle les plans inférieurs de l'évolution. Ça a toujours été. Alors, le minéral, le végétal, l'animal, l'homme incomplet a toujours été énergisé par des forces qu'on appelle la vie. Au cours de l'évolution, ces forces de vie correspondaient au caractère incomplet de l'homme. C'est-à-dire qu'au cours de l'évolution, les forces qui ont beaucoup affecté l'homme pour qu'il descende justement dans la matière, pour qu'il développe un ego, ces forces sont des forces astrales. Ce sont des forces inférieures aux forces de l'énergie de l'intelligence. Ce sont des forces qui ne font pas partie de la lumière, ce sont des forces qui font partie d'un monde inférieur. Et ce sont ces forces qui ont été responsables pour le développement chez l'homme de ce qu'on appelle la connaissance subjective, qui a été manifestée chez l'homme par le phénomène de la pensée. Dans la nouvelle évolution, l'homme, lorsqu'il sera capable d'aller au-delà de l'illusion de sa subjectivité. Autrement dit, lorsque l'homme aura compris le rapport entre ses forces anciennes qui ont dominé son évolution pour le ramener au monde de la mort, pour le ramener ensuite au monde de la vie, pour le ramener ensuite au monde de la mort, lorsque l'homme aura compris cette réalité, automatiquement, il commencera à prendre possession en lui de ses autres forces qui sont universelles, qu'on peut appeler les forces de la lumière. Et il se fera une fusion entre ces intelligences et l'homme. Dans le passé de l'homme, ce qui a créé sur la Terre l'imperfection de l'évolution, ça a été le fait que l'homme n'a jamais parfaitement compris sa réalité. Dans le futur de l'humanité, lorsque l'homme comprendra parfaitement sa réalité, qu'il sera parfaitement unifié, comme il le désire d'ailleurs spirituellement et philosophiquement avec le cosmos. À ce moment-là, l'homme, après avoir été altéré dans son émotionnel et altéré dans son mental, pour qu'il se développe en lui une autre connexion avec laquelle ses forces peuvent se joindre à lui, parce que ses forces ne peuvent pas se joindre à l'homme sur le plan mental ou sur le plan émotionnel, elles sont trop puissantes. Alors, pour qu'elle se joigne à l'homme, il faut qu'elle se joigne sur le plan d'un esprit de l'homme qui est totalement développé, qu'on appelle pour le moment la conscience supramentale. Et lorsque l'homme aura vécu cette transformation qui mènera à la mutation de l'homme, l'unité entre l'homme et ses forces sera totale, et à ce moment-là, l'homme, étant dans la volonté, étant dans l'intelligence, et étant dans l'amour, connaissant et vivant de ces trois principes, au lieu de vivre de la subjectivité de ces trois principes, pourra manipuler ses énergies pour son bien-être sur la planète et créer une nouvelle civilisation. Tant que l'homme ne pourra pas intégrer ces trois principes universels dans sa subjectivité, autrement dit, tant qu'il n'y aura pas fusion entre l'universel et le planétaire, l'homme demeurera planétaire. Et tant que l'homme demeurera planétaire, il sera dans la phase de l'évolution et il sera manipulé par l'astral. Quand l'homme deviendra universel, il ne sera plus manipulé par l'astral, il sera en fusion avec l'énergie. Et la fusion avec cette énergie lui créera sa vraie identité, c'est-à-dire que l'homme sera complété dans sa multidimensionnalité. C'est-à-dire que son corps éthérique aujourd'hui, son double éthérique qui doit se décomposer après la mort, demeurera parce qu'il sera moroncialisé par l'énergie. L'énergie descendant dans l'homme donnera à ce corps double, qui normalement devrait se répandre une fois de plus dans l'énergie indifférenciée, ce corps double deviendra un corps de lumière, deviendra un corps moronciel, et ce corps deviendra le corps avec lequel l'homme pourra se déplacer dans le temps et l'espace. Le corps astral aura changé, parce que le corps astral ne sera plus le siège de la subjectivité émotive de l'homme. Il sera l'extension dans la matière de son pouvoir sensoriel et permettra à l'homme de bien sentir et de bien comprendre et de bien aimer la matière. Mais non pas avec les émotions d'antan, mais avec l'intelligence nouvelle qu'il aura. Sur le plan du corps mental, ce sera la même chose. L'homme avant pensait, c'est normal, il a pensé pendant des siècles. L'homme n'aura plus à penser parce qu'il y aura fusion. Et pour que le corps astral, que le corps mental, que le corps éthérique de l'homme deviennent des principes neufs, c'est-à-dire des principes qui sont totalement en harmonie avec l'universel, il faut qu'il se développe en lui une conscience universelle. Lorsque la conscience universelle sera développée, elle commencera à descendre dans le mental humain, elle le rendra clair, elle descendra dans l'astral de l'homme et elle pourra y purifier ce corps astral, et elle descendra dans le corps éthérique et au lieu que ce corps éthérique se détruise après la mort, il demeurera, il sera moroncialisé et l'homme commencera le nouveau processus de l'évolution qui l'amènera automatiquement à l'immortalité. Alors, le phénomène de l'homme ancien et le phénomène de l'homme nouveau, c'est un phénomène qui est totalement différent l'un de l'autre parce que les lois sont différentes. Les lois de l'homme dans l'ancienneté sont des lois planétaires, les lois de l'homme dans le nouveau cycle sont des lois cosmiques et universelles. Dans le temps ancien, l'homme était sous l'impression du libre-arbitre, dans le temps nouveau, l'homme aura rejeté le libre-arbitre pour être libre. L'homme aura connu que le libre-arbitre est simplement un perfectionnement très avancé de sa relation avec l'astral. Dans le siècle de demain, l'homme aura réalisé que être libre, c'est être parfaitement en harmonie avec l'universel, comme les petits oiseaux. Mais lorsqu'on parle des petits oiseaux et qu'on n'est pas encore dans cette conscience, automatiquement, on a tendance à spiritualiser notre conscience. Et on ne réalise pas que tant que l'homme est spirituel ou tant que l'homme est purement matériel, il n'est pas universel et que même son petit amour pour les petits oiseaux fait partie de son expérience, fait partie de sa sensibilité. Et un jour, il doit en arriver non pas à être seulement en amour sentimental ou spirituel avec les petits oiseaux, mais il devrait être capable, s'il le veut, d'entrer dans la conscience du petit oiseau. Alors, quand l'homme pourra entrer dans la conscience du petit oiseau, à ce moment-là, l'homme saura qu'est-ce que c'est être un petit oiseau. Mais si l'homme a simplement le sentiment spirituel du petit oiseau, c'est très beau, c'est très bien, mais ça fait encore partie de l'évolution. Un jour, l'homme doit être capable de rentrer dans la conscience animale, parce que l'homme, l'esprit de l'homme étant plus haut en vibration que l'esprit des règnes inférieurs, automatiquement, il peut rentrer dans l'animal, il peut rentrer dans la plante, il peut rentrer dans le minéral. Et c'est ça l'homme universel.
Tout ça, est-ce que ça va se produire en même temps que l'avènement de l'homme nouveau?
Ça fait partie de l'homme nouveau. Ça commence petit à petit, c'est déjà annoncé, c'est déjà en évolution présentement, mais il faut comprendre que c'est en évolution. Et ça se fait de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus dans le monde, dans tous les pays du monde. Et après la fin du cycle, lorsque l'homme, à cause des événements de cycle, entrera en contact avec d'autres civilisations, le choc culturel sera très puissant et les hommes seront plus prêts à recevoir ou entrer en contact avec des intelligences qui sont très avancées, au lieu de prendre ces intelligences pour des dieux, ils se mettent à genoux. Alors l'homme, à ce moment-là, étant dans son intelligence, pourra communiquer télépathiquement avec eux, travailler avec eux sur le plan éthérique, ou avoir des relations avec eux sur le plan matériel, et automatiquement, ces êtres serviront l'homme comme l'homme les servira. Ils serviront l'homme sur le plan de la science, comme l'homme leur apprendra les lois de l'amour. Mais les lois de l'amour que l'homme apprendra à ces êtres, ce n'est pas l'amour que nous avons des petits oiseaux. C'est le principe de l'énergie de l'amour, comme le principe de l'énergie de la volonté, comme le principe de l'énergie de l'intelligence. Autrement dit, l'homme échangera avec ses êtres une science, qui est la science de l'amour, et eux échangeront avec lui la science de l'énergie.
Parlez-nous donc de cette science de l'amour que l'homme pourra transmettre. Est-ce qu'il l'a déjà en lui?
Non. Non. L'homme n'a aucune idée de la science de l'amour parce que l'homme est incapable de comprendre la conscience de l'atome. Pour avoir une idée de la science de l'amour, il faut d'abord être capable de se servir de son corps éthérique, non pas du corps astral, du corps éthérique, et d'entrer dans la conscience atomique. Alors, lorsque l'homme entre dans la conscience atomique, il est extrêmement près de l'intelligence de l'atome. Quand il est près de l'intelligence de l'atome, il connaît les lois d'adhésion, les lois de cohésion, les lois de contradiction, les lois de polarité, les lois d'infection et les lois de détermination de l'atome. Et lorsqu'il connaît ces lois, il peut travailler avec ces formes d'énergie et changer à volonté la nature de l'atome. Et quand il change la nature de l'atome, il impose sa volonté à l'atome. Comme il est dans l'intelligence, il impose à l'atome les lois de l'intelligence, les lois de l'harmonie, les lois de l'amour, les lois de la jonction et la loi de la disjonction. Quand l'homme sera capable d'imposer à l'atome les lois de jonction et de disjonction, l'homme pourra prendre n'importe quel élément sur le plan matériel et le transmuter à volonté. L'homme pourra faire une nouvelle matière. L'homme pourra composer de nouvelles matières. L'homme pourra interpréter le rôle de la matière dans la conscience humaine de l'animal et de la plante, qui ne doit pas servir pour l'homme et pour le surhomme, ainsi de suite. Alors, les lois de l'amour sont des lois qui font partie de la science de l'intelligence, mais appliquées au niveau des lois de la cohésion. Les lois de l'intelligence sont des lois de la perfection de l'énergie appliquées aux lois de l'organisation matérielle du système. Les lois de la volonté sont des lois qui font partie de l'organisation intelligente et de l'amour de toute fonction créative dans le cosmos. Alors, ce sont des principes. Nous pensons, nous les hommes, à l'amour, à la volonté, à l'intelligence. On ne peut pas penser à l'amour, à l'intelligence et à la volonté parce que ce sont des principes de vie, ce sont des principes d'action, ce sont des principes de force, ce sont des forces et ce sont des unités d'infinité. Alors, l'homme ne pourra pas comprendre les lois de l'infinité tant qu'il ne sera pas capable d'interpréter parfaitement les lois de l'énergie de la matière. Et lorsqu'il pourra interpréter les lois de l'énergie de la matière, à ce moment-là, il sera capable de comprendre les lois de relation qui existent entre l'amour, la volonté et l'intelligence. Et à ce moment-là, il n'y aura plus dans l'homme d'émotion. Il y aura simplement dans l'homme l'activité parfaite de la triunité. De la triunité, non pas de la trinité, de la triunité de la conscience cosmique. Et lorsque l'homme sera dans la triunité de la conscience cosmique, il sera dans l'unité de la conscience parfaite. Ça, c'est l'homme de demain. Et ceci durera pendant des siècles, pendant 2500 années à peu près. Et ensuite, il y aura un autre changement, une autre mutation, pour que l'homme, au lieu de vivre en relation avec la conscience éthérique et la conscience matérielle, puisse vivre simplement dans la conscience éthérique et matérialiser totalement et complètement son monde, de sorte que l'homme n'aura plus besoin de la conscience matérielle. Il vivra simplement dans la conscience éthérique, et à ce moment-là, il commencera à faire évoluer les animaux. Et ce sont les animaux, sur le plan matériel de la Terre, qui continueront leur évolution, parce que toute conscience doit se perfectionner. Et ensuite, ce sera les plantes, et ensuite, ce sera la matière. Mais l'homme, à ce moment-là, sera rendu au stade de l'évolution jupitérienne. Et lorsque l'homme sera rendu au stade de l'évolution jupitérienne, on dira que c'est un homme esprit, c'est-à-dire que c'est un homme qui n'a plus besoin de forme matérielle pour manifester l'intelligence, la volonté et l'amour, il a besoin simplement d'une conscience parfaite du temps. Ayant une conscience parfaite du temps, il pourra vivre du temps, se nourrir dans le temps et se déplacer dans le temps, et il n'aura plus besoin d'avoir accès à la matière pour donner à la forme inférieure, qui est matérielle, une volonté quelconque dans l'évolution, un devoir quelconque au niveau de l'harmonie et une possession quelconque au niveau des lois qui régissent tous les aspects supérieurs de l'amour. À ce moment-là, l'homme ne sera plus sur la terre. Il y aura simplement des animaux avancés.
Bon. Est-ce que c'est seulement pour l'homme ce destin?
Pardon?
Est-ce que c'est seulement pour l'homme ce destin où il y aurait des êtres sur d'autres mondes, dans d'autres univers, qui auraient déjà franchi ces étapes que vous venez de mentionner pour l'homme, mais qu'eux l'auraient déjà franchi depuis des milliers d'années?
Il n'y a rien dans le cosmos qui se rapporte au passé. Il n'y a rien dans le cosmos qui se répète. S'il y a une qualité fondamentale de l'intelligence créative, c'est qu'elle n'est pas répétitive. Alors, dans le cosmos, toutes les races en évolution exécutent constamment de nouveaux aspects de l'intelligence créative. Vous savez ce que c'est que de l'intelligence? De l'intelligence, c'est de la réorganisation instantanée au niveau de la conscience atomique de l'énergie, permettant à l'énergie de remplacer instantanément le temps de la pensée pour que la pensée insuffisante en elle-même, ne servent plus à organiser des plans de conscience, mais à désorganiser les plans de l'intelligence de l'absolu. C'est ça la pensée. Sur le plan humain, nous vivons la pensée parce que sur le plan humain, nous vivons une conscience tellement différente des lois ou des forces ou des intelligences qui sont des principautés dans les mondes de l'absolu, que nous avons tendance à penser que de la pensée, c'est une fonction créative de l'intelligence. Et la pensée, ce n'est pas ça. La pensée, c'est simplement une forme qui permet à l'énergie de l'intelligence de se canaliser sur des plans inférieurs. Lorsque l'homme sera totalement déconditionné de la pensée, lorsque l'homme n'aura plus besoin de penser pour savoir, lorsque l'homme ne sera plus intéressé à la pensée, lorsque l'homme ne sera plus intéressé à la connaissance, à ce moment-là, l'homme sera un être qui ne vit que de l'énergie mentale, vitale, émotionnelle, et physique en rapport avec trois principes universels, l'amour, l'intelligence et la volonté. Et à ce moment-là, l'homme pourra comprendre, commencer à comprendre les lois de ce qu'on pourrait appeler la science de Dieu. La science de Dieu étant une science faisant partie de l'intelligence qui permet aux êtres qui sont suffisamment dans la fusion de l'énergie de comprendre les rapports parfaits entre l'infinité de la perfection et la perfection de l'absolu pour que, entre l'infinité de la perfection et la perfection de l'absolu, il se crée un pont qui est l'homme de demain. Mais, rendu à ce point-là, l'homme de demain ne sera plus l'homme d'aujourd'hui. L'homme de demain n'aura plus de corps matériel. L'homme de demain sera totalement fusionné avec la lumière et on en parle déjà dans l'Urantia, à ce moment-là, l'homme sera capable de vivre le secret de l'intelligence, de vivre le secret de l'intelligence. Et lorsque l'homme vivra le secret de l'intelligence, il sera dans le secret de l'intelligence, et lorsque il y a un homme, un être, une entité qui est dans le secret de l'intelligence n'appartient qu'au règne de l'évolution du temps auquel il appartient. De sorte qu'un homme qui est dans le secret de l'intelligence ne peut pas partager le secret de l'intelligence parce que l'intelligence ne se répète pas, le secret ne se répète pas. Tout ce qui est conquis dans le cosmos par l'expérience des êtres qui sont dans la lumière et l'expérience des hommes qui sont dans la matière, qui éventuellement fusionnent, demeure totalement secret. C'est pour ça que dans le cosmos, l'homme apprendra un jour qu'il est absolument impossible à un être dans l'astral de connaître et de comprendre un être parfaitement dans le mental. Et qu'il est absolument impossible à un être dans le mental de comprendre parfaitement et de réaliser parfaitement un être dans la lumière. La seule façon qu'un être dans le mental puisse être en parfaite harmonie avec un être dans la lumière, c'est par la fusion. Et la fusion est le seul lien, le seul pont entre l'éternité de l'infinité et l'absolue perfection de la conscience supramentale. Alors, c'est inutile pour l'homme de penser à ces choses. C'est inutile pour l'homme d'essayer de comprendre ces choses, parce que penser, c'est essayer de comprendre. Comprendre, c'est revenir avec la pensée pour essayer de comprendre à nouveau, pour revenir encore avec la pensée. C'est un cercle vicieux qui permet aux forces qui sont dans l'astral d'enregistrer de plus en plus d'impressions dans leur monde pour qu'ils aient de plus en plus d'expérience, pour qu'ils puissent de plus en plus dominer l'homme. Pour que l'homme ne soit pas capable un jour d'entrer dans sa propre intelligence, c'est-à-dire d'être totalement autonome, c'est-à-dire de fusionner. C'est pourquoi je dis, toujours avec réserve, que l'homme passe des étapes. Du matériel, il passe à la spiritualité. À la spiritualité, il passe à la conscience pure. Le matériel, la spiritualité, un jour, doivent être totalement comprises à l'intérieur des lois de l'intelligence, de sorte que l'homme de demain pourra vivre le matériel d'une façon consciente, pourra vivre la conscience spirituelle de son intelligence d'une façon parfaite, de sorte qu'il n'aura plus besoin de la forme spirituelle, il sera simplement un être parfaitement créatif. Et la perfection de la création de l'homme sera la manifestation spirituelle de l'homme de demain. Et aujourd'hui, l'homme spirituel ne peut pas être créatif, il peut simplement être spirituel. Il peut être fin, il peut être bon, aimer les petits oiseaux, ainsi de suite. Mais l'homme de demain n'aura plus besoin d'être spirituel puisqu'il sera créatif. Et la créativité, c'est plus grand que la spiritualité parce que la créativité, c'est la composition totale et éternelle de la relation entre l'homme et l'ajusteur de pensée. De sorte que lorsque l'homme vit la relation parfaite entre lui et l'ajusteur de pensée, il est créateur et automatiquement l'ajusteur de pensée est et devient son support. Et à ce moment-là seulement, l'homme peut-il commander aux forces de la lumière de inonder la matière pour que s'élève la conscience sur la matière, pour que l'homme ait le contrôle de la nature. Et c'est pour ça que, contrairement à ce que vous pensiez au début, l'homme de demain sera libre et l'homme d'aujourd'hui n'a que le libre arbitre. Ces êtres, ces intelligences parfaites ne donneront jamais à l'homme le pouvoir de leur énergie tant que l'homme sera sans ego. Ceci ne veut pas dire que l'homme, parce que l'homme ne connaît pas, ne comprend pas ce que ça veut dire être sans ego. L'homme a l'impression que être sans ego, c'est devenir une machine. C'est pas vrai. Être sans ego, ça veut dire avoir un ego qui est clair, un ego qui est translucide, avoir un mental, un émotionnel et un vital qui peut permettre la canalisation de cette énergie jusque sur le plan physique. De sorte qu'un jour, lorsque le temps a travaillé, que ses forces ont travaillé dans l'homme sur le plan de sa conscience atomique, il puisse avoir une grande fusion. Et lorsque ses forces transfèrent à l'homme le pouvoir de rayonnement, il puisse, lui, à ce moment-là, commencer à être créateur sur la Terre ou dans les Terres. C'est aussi simple que ça.
Vous avez parlé des intelligences jupitériennes, mercuriennes, neptuniennes, plutoniennes dans le passé. Et le Soleil, lui, a-t-il des intelligences?
Oui. Il y a des intelligences sur le Soleil et les seules intelligences qui existent sur le Soleil sont des intelligences créatives. Et ces intelligences sont tellement hautes en vibration qu'elles font partie de ce qu'on appelle l'esprit du Soleil. Et l'esprit du Soleil, c'est le centre de rencontre dans le temps des êtres qui font partie de la lumière. C'est pourquoi le soleil est si important dans le cosmos, non pas parce qu'il donne à l'homme de la chaleur, parce qu'il donne de l'énergie pour la plante ou l'animal. Ça, c'est un des aspects très matériels du soleil. Mais l'aspect très cosmique du soleil, c'est que le soleil est un esprit. Et que la composante totale de cet esprit est en relation avec ce qu'on appelle l'esprit qui existe dans les mondes de la lumière. Alors, les mondes, ces êtres-là, quand ils viennent dans un système, ils sont obligés de se déplacer. Ils sont obligés de passer par certains réseaux d'énergie. Nous, quand nous allons à Sainte-Catherine, sur la rue Sainte-Catherine, nous sommes pas obligés de passer par des rues. Alors, eux sont obligés de passer par des rayons, des réseaux d'énergie. Et le soleil est le point, est le centre de notre système solaire. Et ils sont obligés de rentrer par ce système. Parce que c'est le soleil qui a la plus haute vibration dans le système solaire. C'est pourquoi c'est le soleil qui supporte la vie dans le système solaire. Ils ne peuvent pas rentrer par Mars, ils ne peuvent pas rentrer par Vénus, ils ne peuvent pas rentrer par Jupiter. Ils sont obligés de rentrer par le soleil. C'est pourquoi le soleil est une puissance à tous les niveaux de la création et que dans son infinité, dans son caractère occulte, invisible, dans son caractère totalement lumineux, intérieur, caché, ce qu'on appelle le soleil noir, parce que le soleil, il est noir, il est plat. Alors, le soleil, dans sa composition spirituelle parfaite, c'est un soleil noir, c'est-à-dire que c'est un trou dans l'infinité de l'absolu. Et ce trou dans l'infinité de l'absolu coïncide avec une réalité que les sciences de demain découvriront, que le soleil, c'est un trou d'ébène neugeologique. Alors, le soleil, c'est un trou d'ébène neugeologique, c'est-à-dire que si l'homme était capable, si l'homme avait un corps subtil, suffisamment vibrant, suffisamment purifié, il pourrait entrer dans le soleil et il s'apercevrait que le soleil est un corridor qui mène à d'autres soleils dans la galaxie, dans le cosmos, et que ce corridor ne communique avec aucune planète de notre système solaire. Mais ça fait partie de l'évolution de l'homme. L'homme demain voyagera dans le temps. Et lorsqu'il voyagera dans le temps, il aura des véhicules autres que les avions à hélice d'aujourd'hui. Et à ce moment-là, l'homme pourra se déplacer dans le temps avec son esprit. Et l'homme pourra revenir dans la matière avec son esprit. L'homme sera multidimensionnel. Il sera matériel, il sera éthérique, il sera astral, il sera mental, il sera supramental, et il aura tous les principes développés. De sorte qu'il connaîtra parfaitement les lois de la science. Il connaîtra parfaitement les lois de l'esprit, il comprendra parfaitement les lois de l'éternité, et en connaissant les lois de l'éternité, il sera capable de désintégrer constamment, instantanément, dans sa conscience, de par le jeu de la conscience, tous les aspects de l'atome qui ne sont pas parfaits, c'est-à-dire qui ont été dans le passé contrôlés et mis en évolution par ce qu'on appelle dans notre système solaire les forces plutoniennes. C'est à ce moment-là que la Terre ne sera plus matérielle et que la Terre deviendra un globe lumineux de très haute vibration. Mais ça, c'est après la septième race.
On sait dans d'autres systèmes solaires que les étoiles, leur étoile centrale grossit, éclate en supernova. Qu'est-ce que ça signifie?
Quand elles éclatent en supernova, c'est parce qu'elles sont obligées de passer à un nouveau stage de mutation, parce que les esprits qui la composent, parce qu'une planète est toujours composée d'esprits, les esprits qui la composent sont obligés de changer de place dans le temps. Alors, lorsqu'ils sont obligés de changer de place dans le temps, la composition moléculaire, la composition chimique est altérée et l'éclatement est cette composition. Alors, si une étoile éclate, elle devient gazeuse. Si elle devient gazeuse, elle devient un produit de l'esprit altéré. C'est-à-dire que l'esprit étant altéré, il a automatiquement une autre vibration. Et lorsque l'esprit a une autre vibration, ces agglomérations de gaz changeront, créeront autre chose dans le cosmos. Et c'est comme ça que se crée le cosmos.
Et le minéral?
Le minéral, c'est la même chose.
Donc, dans le minéral, il y a de l'esprit?
Dans le minéral, il y a de l'esprit, seulement c'est un esprit qui est très dense. C'est un esprit qui ne bouge pas beaucoup. Dans le végétal, il y a un autre esprit. Dans l'animal, il y a un autre esprit. Dans l'homme, il y a un autre esprit. Dans le surhomme, il y a un autre esprit. Dans l'homme de la septième race, il y aura un autre esprit. Vous savez qu'est-ce que c'est de l'esprit? De l'esprit, c'est ce qui ressemble le plus à de l'énergie, mais c'est ce qui permet à l'énergie de voyager dans le temps. Pour que l'énergie se déplace dans le temps, elle doit être spiritualisée. Place dans le temps. Si l'énergie ne se déplace pas dans le temps, on appelle ceci de l'énergie indifférenciée. Et de l'énergie indifférenciée, c'est de l'énergie qui ne sert pas aujourd'hui, mais qui se servira demain. Alors, le seul aspect de l'énergie qui sert, c'est celui qui est rendu esprit. Parce que tout dans le cosmos qui est esprit est venu dans un temps quelconque de l'énergie indifférenciée. Et c'est quand on retourne à l'étude ou à la compréhension de ceci qu'on retourne au début réel de la création, non pas les débuts secondaires de la création. Parce que dans le phénomène de la création, il y a eu des étapes. Il y a eu des étapes primaires, il y a eu des étapes secondaires, il y a eu des étapes tertiaires. Et plus on retourne dans le temps de l'énergie, plus on retourne dans les étapes où il n'y a plus de conscience dans l'esprit de la matière. Lorsqu'il n'y a plus de conscience dans l'esprit de l'énergie, à ce moment-là, on arrive à l'origine de Dieu. Et un jour, je parlerai de l'origine de Dieu, mais pour le moment, je ne veux pas en parler parce que ça suscite trop d'énergie dans le mental des gens et ça fait trop penser pour rien. Mais l'homme doit en arriver un jour, à cause de la fusion, à pouvoir savoir. Ceci veut dire que l'homme doit en arriver un jour, par la fusion, à être capable de communiquer instantanément avec l'esprit. Ça veut dire que l'homme, lorsqu'il aura la capacité de communiquer instantanément avec l'esprit, sera instantanément dans la vibration de l'esprit et automatiquement son esprit sera instantanément dans la vibration de l'intelligence. Et à ce moment-là, l'homme pourra se servir de ce qu'il sait à cause de cette connexion pour travailler et créer des mondes neufs.
Dans une conférence passée, vous nous avez déjà mentionné qu'il y aurait des êtres qui se matérialiseraient dans des bureaux administratifs de gouvernement, etc. Qui sont ces êtres et d'où viennent-ils? Sur quel niveau se situent-ils?
Ces êtres se situeront sur le plan éthérique. Ce sont des êtres qui font partie de la Terre, ce sont des êtres aussi qui ne font pas partie de la Terre, mais ce sont des êtres qui feront partie de ce que j'appelle le gouvernement invisible. Et ces êtres veilleront à l'évolution normale de la sixième race. Parce que la sixième race doit être protégée, parce que la sixième race sera très spirituelle, elle sera très avancée, mais elle n'aura pas encore... Elle n'aura pas encore la fusion, elle ne sera pas totalement fusionnée et automatiquement elle sera sujette à erreur. C'est pourquoi éventuellement il y aura une septième race.
Mais d'où viennent-ils ces êtres?
Ces êtres font partie de l'humanité, mais de l'humanité très évoluée. Ces êtres font partie de l'humanité qui ne vit plus de l'expérience. Ces êtres font partie de l'homme qui n'est plus obligé de vivre de la mémoire. Ces êtres font partie de l'homme qui sait parfaitement le temps de l'évolution, les lois de l'évolution. Ces êtres font partie de l'homme qui peut entrer dans la conscience matérielle, végétale, animale, mentale de l'homme. Ces êtres sont des êtres qui font partie d'une haute hiérarchie, mais qui descendront sur le plan matériel éthérique pour aider à l'évolution de l'homme et pour protéger l'homme contre les abus qui viendront à cause du fait que dans les siècles qui viendront, l'homme découvrira des pouvoirs psychiques, et à cause des pouvoirs psychiques, et à cause du fait que l'homme aura de l'ego, il aura tendance à se servir de ses pouvoirs pour créer pour lui-même, pour ses appétits personnels, un petit peu de pouvoir. Et l'homme ne doit pas chercher le pouvoir. Et tant que l'homme ne sera pas totalement fusionné, il cherchera le pouvoir parce que ça fait partie de l'activité du corps astral et ça fera encore partie des activités subliminales, des forces astrales qui veulent dominer la planète.
Est-ce que ce sont eux qui ont pris le nom d'Elohim?
Les Elohim sont des êtres qui sont venus de l'espace pour engendrer sur la planète des force permettant à l'homme de devenir racial. Les Elohim ne font pas partie de la lumière. Ce sont des êtres extrêmement évolués, ce sont des êtres humains très évolués, mais qui, un jour, lorsque l'homme sera dans son Elohimité, seront obligés, à cause du gouvernement invisible, de respecter les lois de l'homme, qui seront fixées dans l'esprit de l'homme à cause de la fusion de l'esprit de l'homme. Autrement dit, les Elohim ont aidé l'homme dans le passé à établir une civilisation pour qu'il se développe sur la terre une sorte de continuité dans la généticité de l'homme, afin que le corps éthérique de l'homme puisse continuer à évoluer et aussi afin qu'il se partage sur le plan d'un certain nombre de races. Ce sont les Elohim qui ont créé le phénomène de la race sur la terre. Ce sont les Elohim, à cause de la manipulation de l'énergie du corps vital de l'homme, qui ont créé le corps éthérique noir, blanc, jaune, ainsi de suite, qui a donné éventuellement des changements, qui a créé des changements dans la composition épidermique de l'homme et osculaire de l'homme. Mais lorsque ces êtres-là reviendront, l'homme sera déjà dans l'esprit de son temps. C'est-à-dire qu'il y aura des hommes sur la terre qui seront dans l'esprit de leur temps et qui seront sur le même palier d'évolution ou supérieur aux Elohim. Et ce sont ces hommes qui contrôleront les allées et venues des Elohim sur la terre pour que les hommes de demain ne soient plus assujettis à la domination raciale des intentions cosmiques de l'évolution et pour que l'homme demain reconnaisse un fait absolu, c'est que l'homme doit être maître de sa planète. L'homme, dans le passé, ne pouvait pas être maître de sa planète parce que l'homme ne pouvait même pas être maître de lui-même. Alors, on lui a imposé des lois, on lui a montré comment, on lui a, par des initiés, indiqué le chemin. Demain, la mutation, l'évolution, le cycle de l'intelligence, l'homme sera maître de lui-même, étant maître de lui-même, il sera maître de la nature, étant maître de la nature, il sera maître de la planète, et ceux qui seront dans la maîtrise de l'énergie feront partie du gouvernement invisible, et ce sont ces hommes qui dirigeront l'évolution de la Terre.
Les différentes races disparaîtront-elles?
Il y aura des races qui disparaîtront parce qu'éventuellement, la seule façon pour que certains corps éthériques ne servent plus à l'incarnation, il faut qu'il y ait destruction des races. Alors, il y aura énormément de... D'ailleurs, c'est ce qui se produira à la fin du cycle. Vous savez, il y a tellement de choses à dire. Si nous regardons le phénomène de la guerre, il y a plusieurs points de vue. Nous pouvons le regarder du point de vue karmique, du point de vue spirituel, du point de vue cosmique, du point de vue universel. Si nous regardons le phénomène de la guerre, du point de vue spirituel et du point de vue karmique, nous réalisons que les activités de l'humanité ont engendré la guerre. C'est normal. Mais ce n'est pas parfaitement vrai. La guerre a été engendrée karmiquement sur la Terre parce que l'homme, à cause de son ignorance, s'est laissé dominer par des formes dans le mental et l'émotionnel qui ont été mises dans son intelligence et dans son émotionnel par des forces qui sont dans l'invisible. Et à cause du fait que l'homme n'est pas suffisamment encore entré dans l'intelligence, il est incapable ou il était incapable de réaliser qu'en fait, il faisait un partnership avec l'invisible. Et comme l'homme a fait un partnership avec l'invisible, mais qu'il était encore dans l'ignorance de l'invisible et qu'on lui avait donné le libre-arbitre et qu'il était très satisfait de ce libre-arbitre, il a constitué sur le globe une phénoménologie de l'événement qui a créé ce qu'on appelle le karma humain. Et lorsque l'homme sera dans l'intelligence demain, il réalisera que le karma humain n'existe que lorsqu'on est dans l'intelligence de ce karma. Autrement dit, quand on est dans l'ignorance des faits événementiels créés par les intelligences sur les autres plans. Et lorsqu'un homme a réalisé qu'une des grandes lois dans le cosmos, qui fait partie d'une des grandes sciences de l'ingénierie de l'évolution, est une loi liée à l'événementiel, à ce moment-là, l'homme rejettera toute responsabilité karmique personnelle. Et automatiquement, il rejettera toute responsabilité karmique planétaire. Mais pour que l'homme rejette la responsabilité karmique personnelle et planétaire, il doit être intelligent. S'il n'est pas intelligent, il n'aura pas la force de le faire. Parce qu'un homme ne peut pas être intelligent et ignorant à la fois. Parce que être ignorant, c'est un aspect. Être intelligent, c'est un aspect. Et les deux ne peuvent pas se rencontrer. Alors, pour soit que l'homme soit ignorant, il n'y a pas de milieu. C'est un spectrum. Alors, soit que l'homme soit ignorant à différents niveaux, même s'il a un doctorat, mais qu'il soit ignorant, qu'il ne connaisse pas les lois cosmiques, ou que l'homme connaisse les lois cosmiques. S'il ne connaît pas les lois cosmiques, il est obligé de subir le karma. psychologiquement, mortellement. S'il connaît les lois, il ne peut pas le souffrir. Il rejette le karma. Et pour que l'homme rejette le karma mondial, qu'il rejette le karma planétaire, pour qu'il rejette le karma individuel, il ne faut plus qu'il ait de mémoire. Parce que le karma de l'homme, il est contenu dans la mémoire. Mais pour qu'il n'ait plus de mémoire, il faut qu'il paie le prix de la perte de la mémoire. Et qu'est-ce que c'est le prix de la perte de la mémoire? C'est la disparition chez l'homme de l'ignorance de l'ego, c'est-à-dire la fusion entre son mental, son émotionnel, son vital et son physique. À ce moment-là, l'homme est libre du passé. Et automatiquement, ce qui se passera événementiellement dans les années à venir font partie de l'expérience de l'humanité, mais ne font plus partie de son expérience parce qu'il ne vit plus expérimentalement, parce qu'il ne vit que intelligemment. Mais tant que l'homme vivra expérimentalement, il sera dans l'inconscience. Lorsque l'homme ne vivra plus expérimentalement, il sera dans l'intelligence instantanée et toutes ses actions seront parfaites. C'est-à-dire que toutes ses actions seront le produit d'une fusion entre l'énergie en lui et ses principes. De sorte que l'homme ne pourra plus subir le karma planétaire ou individuel et automatiquement il immortalisera son corps matériel parce que son corps éthérique aura été élevé à un statut universel qu'on appelle la conscience potentielle.
Le thème de notre rencontre aujourd'hui, Bernard, c'était vivre aujourd'hui, ici, maintenant, bon. Avec tout ce qu'on a autour de nous.
Bon, c'est très bien. C'est pour ça que je dis, quand je dis, je ne parle jamais pour rien. Et quand je dis, l'homme ne doit pas penser à ces choses, je dis que l'homme doit vivre aujourd'hui. Alors, quand l'homme apprendra à vivre aujourd'hui, et que, à travers son expérience, il grandira dans l'intelligence, il comprendra sa vie d'aujourd'hui de mieux en mieux. Et il viendra un jour où l'homme comprendra tellement bien sa vie d'aujourd'hui qu'il ne sera plus affecté par la souffrance que crée la vie d'aujourd'hui. Ce sera l'homme nouveau.
Mais on dirait que, pour le moment, en attendant les grands événements que vous nous annoncez, on doit attendre. On regarde les nouvelles, on regarde la télévision.
Non, c'est pas ce que je dis. C'est ce que vous dites que je dis. C'est pas ce que je dis. Les gens disent toujours ce qu'ils veulent que je dise, et jamais les gens disent ce que je veux dire. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas ce que je veux dire. Je ne veux pas dire que les gens ne sont pas intelligents, je dis qu'ils ne comprennent pas ce que je veux dire. Et comme ils ne comprennent pas ce que je veux dire, et qu'ils veulent dire ou expliquer ce que je veux dire, ils le disent toute croche, par bonne volonté. Ce que je dis, c'est que l'homme, aujourd'hui, doit vivre sa vie le mieux possible, avec l'intelligence qu'il a. Et s'il est évolué, cet homme, il évoluera. S'il ne ferme pas la porte à l'instruction mondiale, il apprendra, il grandira, il grandira, il grandira. L'homme n'a pas... Vous savez, la vie de l'homme aujourd'hui, ce n'est pas de ses affaires. Demain, quand l'homme sera dans son intelligence, sa vie sera de ses affaires, parce qu'il pourra faire de sa vie ce qu'il veut. Mais d'ici à ce temps-là, la vie de l'homme n'est pas de ses affaires. Il doit la subir. Il n'y a pas de choix. Parce qu'il pense. Parce qu'il a des émotions. Parce qu'il est régi par les lois événementielles. Mais si l'homme apprend à comprendre son esprit, s'il apprend à comprendre les illusions de son esprit, Je vous donne un exemple. Bon, je vais couper ça simple. Je vous donne un exemple qui va expliquer un peu le phénomène de tout. Prenons un type, là, un bon Joe. Ouais. Il y a une femme, il y a des enfants, et ainsi de suite. Et tout à coup, un jour, il est au bureau, puis ça lui parle dans la tête. Qu'est-ce qu'il va faire, le type? Il n'est pas pour compter ça à sa femme. Il n'est pas pour compter ça à sa belle-mère, surtout s'il attend un héritage. Il ne va pas compter ça au psychologue. Parce qu'on sait que quand quelqu'un te parle dans ta tête, tu es déjà prêt pour la grande bâtisse. Alors, qu'est-ce qui fait le type? Il souffre. Il n'y a personne avec qui parler. Et il vit ceci pendant des années de temps. Mais tout d'un coup, un jour, il rencontre quelqu'un qui lui aussi parle dans la tête. Alors, avant, il était foutu seul. Maintenant, il y en a deux. Ensuite, il y en a trois. Ensuite, il y en a quatre. Et c'est ce qui se produit. Et si les gens vont réaliser dans le monde que plus le temps va, plus il y a de gens qui sont fous. Mais c'est pas qu'ils sont fous, c'est qu'ils sont fins. Mais ils savent pas qu'ils sont fins parce qu'ils ont été fous. Ils ont été ignorants de leur intelligence qui grandit. C'est un peu comme le poussin qui vient dans l'œuf. Il n'y a pas de poil. Il regarde sa mère et dit, comment ça se fait qu'elle, elle a du poil, moi, j'ai pas de poil. Au lieu d'être assez intelligent pour dire, bon, moi, je suis sorti de l'œuf. Vous comprenez? Alors, le type, lui, il commence, ça commence à lui parler, papa. Et là, il s'inquiète. Et tout d'un coup, à cause de ce qui se passe dans le monde, à cause des maîtres qui travaillent, à cause de toute l'information qui sort dans le monde aujourd'hui depuis 20 ans, de façon extraordinaire, là, il n'est pas tout seul. Moi aussi, je suis fou. Mais je suis bien fou. Je suis content d'être fou. Je ne voudrais pas être pas fou. Et je rencontre des fous dans ma vie et on a du fun ensemble. Mais pour que l'homme soit fou, c'est-à-dire pour que l'homme ne soit plus, ne fonctionne plus psychologiquement comme il fonctionnait avant, il faut qu'il soit suffisamment aidé dans le monde. Il faut qu'il soit aidé par des gens comme vous, il faut qu'il soit aidé par des maîtres, il faut qu'il soit aidé par des gens qui écrivent des livres, qui sont suffisamment fous pour écrire intelligemment et qui peuvent établir des liens avec des gens qui sont fous, mais qui ne comprennent pas encore leur folie et qui, là, réellement, pensent qu'ils sont vraiment fous. Et quand les gens qui sont fous, je ne parle pas des fous à battre, je parle des fous normaux, des fous intelligents. Quand les gens qui sont fous intelligents qui ne comprennent pas encore ce qui se passe dans leur esprit, commenceront à réaliser que c'est plein de fous intelligents dans la, qui grandissent, qui poussent, à ce moment-là, les gens commenceront à ne plus se penser différents et ils commenceront à réaliser que ça fait partie de la descente de la conscience supramentale sur la Terre et ils seront contents de commencer à comprendre autre chose.
Il y a des fous qui ont même dépensé une fortune pour annoncer le retour du Christ.
Oui.
Benjamin Ingram en Angleterre avait dit entendre une voix qui lui disait « Un tel est le Christ ».
Oui. Bon, mais c'est ça que je dis. Vous me demandez tout le temps, vous voulez toujours que je vous donne une petite formule, que ça va aller vite. Je vous dis que la descente de la conscience supramentale sur la Terre, ça se fait, c'est commencé, ça prend son temps, et que la conscience astrale de l'homme, je vous ai dit que l'homme est en communication avec l'astral depuis des siècles. Alors si ce type là-bas reçoit de l'information spirituelle de l'astral par d'autres entités dans l'astral, ça fait partie de l'expérience de la Terre, ça fait partie de son expérience à lui. Et un jour, lorsqu'il sera sorti de la conscience astrale, qu'il sera dans la conscience mentale, à ce moment-là, il comprendra que ceci faisait partie de son expérience. Quand je dis, apprenez-le une fois pour toutes à ne pas croire, écoutez, mais ne pas croire, ça fait partie de votre évolution. C'est ça qui est si difficile. Vous imaginez que lorsque les circuits s'ouvrent dans votre esprit, aussitôt que quelqu'un commence à recevoir de l'information dans le mental, là, il vient fou comme la merde. Là, il reçoit des informations qu'il va avoir une guerre mondiale, il va recevoir des informations qu'il va se produire telle chose demain, ensuite, et là, il le dit à tout le monde en public, et là, il s'aperçoit que ça se passe pas comme ça. Et là, il commence à réfléchir, et c'est comme ça que la conscience supramentale détruit l'ego. Alors, elle commence à mettre de l'information à travers l'homme. L'homme se prend au sérieux parce qu'il a un ego. Il se prend spirituellement orgueilleux parce qu'il se développe toujours une petite orgueil spirituel quand on est un petit peu capable de voir dans l'avenir, hein? Et ensuite, quand il a appris après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que c'est un jeu, jusqu'à temps qu'il puisse sortir et être dans l'intelligence de son intelligence. À ce moment-là, il ne se fait plus prendre dans le jeu. Et à ce moment-là, quand il sait, il garde pour lui. Ou il le dit à ceux qui peuvent le garder pour eux, de sorte qu'il n'épouvante plus le public. C'est ça que j'appelle le discernement. Mais tout ça, ça fait partie du jeu cosmique. Il y a des hommes sur la Terre qui ont la capacité de recevoir de l'information, qui ont suffisamment d'émotion et de spiritualité, et oubliez pas, je dis de sincérité, ce type-là, là, qui annonce le Christ, il est extrêmement sincère, c'est un type qui a de très bonnes vibrations. Mais ce n'est pas assez. Nous devons être intelligents, c'est-à-dire que l'homme doit être capable un jour de comprendre les lois de l'intelligence, les lois de l'esprit, pour ne plus jamais être dominé par l'esprit de l'intelligence qui est dans l'astral et qui se sert de sa nature humaine, de son inconscient spirituel, de sa bonne volonté, pour faire passer dans le monde des messages.
Et vous, Bernard, vous avez une grosse responsabilité à ce niveau-là.
À quel niveau?
De faire passer un message qui vous vient par une voix en quelque part.
Moi, je parle. Écoutez, moi, je suis un mal engueulé. Je parle, j'aime ça parler, je détruis des formes, je mets en garde. J'essaie de faire voir aux gens les choses par une longue vue à laquelle nous ne sommes pas habitués. J'essaie de faire comprendre à l'homme que nous entrons dans une nouvelle évolution. J'essaie de faire comprendre à l'homme par ma propre expérience les dangers de l'ésotérisme, les dangers de la spiritualité ésotérique, les dangers, surtout à la fin du cycle, qui menacent l'homme parce que l'homme n'a pas encore la maturité, parce que l'homme n'a pas encore l'expérience de l'intelligence. C'est ça que je fais. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je regarde ce qui se passe dans le monde, je regarde les sectes, les organisations, les écoles, les ci, et je fais le partage des choses, et je vois celles qui sont bonnes et qui aident l'homme, et je vois qu'elles sont importantes et qu'elles sont nécessaires. Mais je vois aussi que l'homme doit apprendre un jour à devenir totalement autonome pour ne plus avoir besoin d'être dit par des hommes ce qu'il doit savoir, mais de le savoir par lui-même, par sa propre intelligence, parce que, une fois pour toutes, il est dans son intelligence. Autrement dit, l'énergie cosmique, de l'intelligence cosmique, elle est descendue sur son plan mental pour éclairer son plan mental.
Mais encore là, ils font jouer des tours, ceux qui suivent leur intelligence qui passe en eux.
Ça fait partie de l'initiation solaire de l'homme. Ça fait partie de l'initiation solaire de l'homme. Et c'est la condition de l'involution et de l'évolution. Tous les hommes qui entreront dans la conscience universelle seront obligés de voir à travers toutes les illusions de leur conscience pour en arriver à voir parfaitement dans l'intelligence. L'intelligence, dans le fond, l'intelligence, la fusion de l'homme, c'est le pouvoir de la lumière dans l'homme. Et ce pouvoir dans l'homme, cette grande facilité créative que donne cette énergie à l'homme, elle ne peut pas passer dans l'homme s'il y a de l'ego, s'il y a de l'illusion dans l'ego, s'il y a des formes dans le mental et dans l'émotionnel qui risquent de prendre cette énergie et la déformer. Cette énergie, elle est pure et elle doit demeurer pure, et là où elle sera traînée dans la boue, elle cessera d'exister dans l'homme.
Et pour vivre aujourd'hui maintenant,
pour vivre aujourd'hui,
prendre son coke, fumer ses cigarettes.
Pour vivre aujourd'hui maintenant, d'ailleurs les hommes évoluent, il y a du travail qui se fait, il y a de l'information qui vient à l'homme, il y a des mises en garde qui se donnent à l'homme, et l'homme évolue, et il y a des hommes qui commencent à avoir le contact avec l'intelligence, et comme il y a beaucoup d'informations dans le monde, là ils peuvent commencer à réaliser. C'était plus difficile il y a 20 ans de voir, parce qu'il y a 20 ans, tout le monde mangeait les livres comme si c'était du cornflakes. Mais aujourd'hui, il commence à se développer un petit peu plus on est plus circonspect, on fait attention, on regarde, ainsi de suite. Les hommes ésotérisés deviennent un petit peu plus intelligents. Et dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, les hommes ésotérisés, les hommes qui sont autres, les hommes qui ont changé dans l'évolution de leur mental, seront très, très, très stables, très intelligents dans l'émotionnel, très intelligents dans le mental, et ils vivront leur vie intelligente d'une façon consciente. Et ça fait partie des temps de transition dans lesquels nous sommes. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui seront perdus par la descente de cette force sur la Terre. Exemple, les meurtriers, ceux qui violent la conscience sociale de l'humanité. Mais parmi tous ces hommes dans le monde, il y en aura qui pourront passer à travers qui pourront vivre cette descente, la pénétration de cette énergie en eux, et eux seront élevés en vibration, et eux deviendront conscients, supramental, les hommes de demain, et ainsi de suite, et ça continue. Et en attendant, ils doivent vivre leur vie, travailler chez eux, boire un coke chez eux.
Et il y en a plusieurs de ceux-là qui ont des enfants.
Oui.
Et il y en a plusieurs de ceux-là qui sont adultes avec des enfants qui sont déjà plus engagés dans la vie qu'eux-mêmes adultes qui répètent quotidiennement toujours le même scénario alors que leurs enfants veulent vivre et ça les dépasse. Ils ont seulement des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Qu'est-ce qui se passe, non?
Ça fait partie de leur expérience. Si les parents se conscientisent, les enfants vont se conscientiser très vite. C'est évident que les enfants qui viennent aujourd'hui sont les enfants qui demain feront partie de la nouvelle race. Et les enfants d'aujourd'hui, ce sont de nouvelles âmes. Automatiquement, ils ont souvent des expériences qui sont beaucoup plus évolutives que les parents. Les parents ont simplement servi de véhicule, de canal pour leur descendre dans la matière. Si les parents se conscientisent, si les parents deviennent plus objectifs, si les parents deviennent plus intelligents, ils verront leurs enfants, ils verront leur propensité haute, ils verront qu'ils sont nouveaux et les parents pourront s'ajuster aux enfants. Et déjà, il y a des parents qui sont déjà ésotérisés. Alors pour eux, les enfants qui viennent dans le monde et qu'ils voient d'une façon différente d'un autre œil, ils ont une relation avec eux qui est totalement ésotérique. Moi, je le sais, je connais des parents qui ont des enfants et qui sont sur une même longueur d'onde. Alors, dans ces cas-là, c'est très, très, très intéressant. Alors, les enfants qui naissent aujourd'hui, n'oubliez pas que les enfants doivent aussi vivre leur expérience. Les enfants doivent en arriver à leur maturité. La maturité de l'intelligence, ça prend du temps. Alors, ce n'est pas parce que les enfants ont des propensités qui diffèrent des enfants de l'ancienne génération que ces enfants ne sont nécessairement conscients. La conscience est la conscience. Ce n'est pas la différenciation dans le caractère et le tempérament qui est donné à l'enfant à cause d'une mémoire autre de l'âme. Ce n'est pas parce qu'un enfant est différent aujourd'hui qu'il est nécessairement conscient. Un enfant qui est différent aujourd'hui projette dans l'avenir des possibilités autres, mais un jour il devra être conscientisé. Les hommes sur la terre doivent être conscientisés. Moi j'ai une fille qui est qui est d'un haut niveau d'évolution, mais qui a un caractère de chien, et qui a de très grandes qualités, mais qui a de très grands défauts. Et moi, naturellement, parce que c'est ma fille, elle vit une initiation mineure, mais cet enfant doit être amené à une conscience totale d'elle-même. Elle a son propre contact et elle parle avec son contact. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, elle vient à la maison et elle avait pris un papillon dans une bouteille. Elle voulait le papillon, elle voulait le piquer, le mettre sur un mur. Vous savez, les enfants, c'est normal. Je suis d'accord avec ça, ça fait partie de ça. Mais je lui ai dit, le papillon il est beau, regarde dans la bouteille, il souffle, il veut sortir. J'ai dit, pourquoi tu le laisses pas sortir? J'ai dit, quand papa ira en voyage, je t'amènerai une petite plaque avec des papillons qui ont déjà été piqués par d'autres personnes. Il est revenu dans 5 minutes et il m'a dit, oui, t'as raison. Le papillon, moi, je ne le pique pas. S'il y en a d'autres qui le piquent, je le prendrai parce qu'ils ont fait le travail pour moi. Mais moi, je ne le prends pas. Alors, elle a pris le papillon et elle l'a remis à la nature. Alors, automatiquement, elle développe la sensibilité envers la vie. Mais un jour, ça, c'est comme le phénomène de la viande. Il y a des gens qui me demandent, est-ce que je mange de la viande? Moi, je mange de la viande plus que n'importe qui dans la salle parce que je travaille très fort. Si je ne mangeais pas de la viande, je ne pourrais pas travailler. Et les gens me disent, mais oui, mais vous êtes censé être un homme spirituel. Je dis, je ne suis pas un homme spirituel. Je dis, je suis un homme qui vit ma vie d'une façon intelligente. Et si l'intelligence me fait manger de la viande parce que j'ai besoin de beaucoup de protéines, parce que je fais un travail fort, parce que je n'ai pas beaucoup de force pour me maintenir, à ce moment-là, je suis l'énergie de l'intelligence. Alors la personne me dit, mais oui, mais si tout le monde faisait comme vous. Mais j'ai dit, à ce moment-là, si tout le monde... C'est-à-dire que si tout le monde faisait comme moi, si tout le monde mangeait de la viande, tout le monde tuerait les animaux. Mais je dis à ce moment-là, la situation sera autre. Parce que moi, je ne tue pas les animaux. Je ne peux pas tuer un animal. Mais si vous le faites pour moi, j'en suis gracieux. Alors, si le boucher tue l'animal, c'est parce que lui, il a la vibration pour la faire. Lui, il ne souffre pas. Moi, je souffre si je tue l'animal. Alors, si lui, il a la vibration pour la faire, et que moi, je peux me servir de cette viande qui est là, je vais la faire. Parce qu'à ce moment-là, la conscience éthérique de l'animal ne fait pas de communication, de connexion avec ma conscience éthérique. Alors, je ne souffre pas. Alors, ça résout le problème de la viande.
Belle excuse pour ceux qui sont soldats et qui iront à la guerre.
Ça fait partie de la même chose. Plus tu es conscient, moins tu peux aller à la guerre. Mais tant que tu peux aller à la guerre, tu y vas et tu sers, et ça sert. Au plan cosmique.
C'est tout ça, des réalités de vivre ici, maintenant, aujourd'hui.
Oui, on doit vivre notre vie selon notre vie, et non pas selon la vie des autres. Alors, si on a la vibration d'aller à la chasse, on doit s'amuser à y aller. Un jour, demain, on n'a plus de vibration, on n'y va plus. Ce n'est pas dans notre droit de dire à tout le monde, tu ne devrais pas aller à la chasse, parce que moi, c'est pas beau aller à la chasse. Ça devient du fanatisme spirituel. Tu ne peux pas aller à la chasse. Alors, il y a des gens qui... Ça balance leur vibration, ça canalise leur vibration d'aller à la chasse. Quand leurs vibrations seront changées, quand ils seront un peu plus conscients, ils n'iront plus à la chasse, ça sera normal. En attendant, il faut qu'ils vivent leur vie. Le problème avec les hommes, c'est que les hommes veulent enseigner à tout le monde. Les hommes veulent donner des conseils à tout le monde. L'homme n'a pas de conseils à donner à personne. L'homme n'a simplement qu'à vivre sa vie d'une façon de plus en plus consciente. Et si un jour il mange de la viande, il mange de la viande. Si demain il mange des raisins, il mange des raisins. Mais que ce soit ses raisins à lui, pas des raisins imposés.
Merci, Bernard de Montréal.